Bonjour Mathieu.
Bonjour Robin.
Donc vous travaillez au Centre de mathématiques appliquées de l'École Polytechnique.
Tout à fait.
Et aujourd'hui vous allez nous parler du son en trois dimensions sur lequel vous travaillez dans l'équipe X-Audio et de simulation numérique.
Le but en fait c'est de vous présenter nos travaux qui concernent le son en trois dimensions et les calculs numériques qui permettent d'obtenir ce son en trois dimensions.
D'accord, alors première question la plus triviale, qu'est-ce que le son ?
Eh bien, c'est une bonne question pour démarrer. Donc, pour parler de son, l'idéal, c'est de commencer par introduire trois choses. La première chose, ça va être de parler d'émetteur. En fait, il faut bien générer ces sons. Et pour générer ces sons, en fait, on va avoir besoin de vibrations. Ce sont les vibrations qui produisent les sons. Donc, typiquement, là, on voit un haut-parleur, mais on peut penser aussi à un instrument de musique, on peut passer aux cordes vocales. Tout ça produit des sons. Ensuite, on va avoir besoin d'un récepteur, parce qu'il faut bien entendre ces sons. Donc là, on va penser à des microphones, mais plus naturellement, on va aussi penser aux oreilles. Les oreilles sont des récepteurs. Mais entre les deux, on a un émetteur, on a un récepteur, il faut quelque chose, il faut un milieu de propagation. Et dans le cas présent, le milieu, c'est l'air. Nous discutons tous les deux, les cordes vocales sont émettrices, vos oreilles sont réceptrices, et entre nous, il y a de l'air.
Finalement, sans milieu de propagation, donc sans air, donc par exemple dans l'espace, il n'y a pas de son qui se propage.
Dans l'espace, il n'y a pas de son qui se propage, il faut forcément un milieu de propagation. Pourquoi ? Regardez ici, là je vais vous symboliser la membrane d'un haut-parleur. Cette membrane va vibrer, d'accord ? Lorsque la membrane vibre, elle va pousser l'air, donc elle va compresser, elle va augmenter la pression, en fait la pression acoustique. Et cette pression en fait va se propager. Donc lorsque cette pression se propage, on génère une onde, et cette onde en fait, c'est ce qui va nous permettre d'émettre des sons et d'entendre des sons. C'est l'objet qui se propage entre l'émetteur et le récepteur.
Cette onde, c'est ce qu'on voit ici, c'est cette espèce de vaguelette. Et comment on peut différencier, est-ce qu'il y a différents types d'ondes sonores par exemple ?
Donc il y a différents types d'ondes sonores, tout simplement parce qu'il peut y avoir différentes longueurs d'onde. Donc la longueur d'onde, ça va être la distance que vous allez avoir entre deux pressions maximales, d'accord, entre deux maximums sur cette courbe. Et comme vous voyez sur cette slide, on vous a représenté plusieurs longueurs d'onde. Vous avez en rouge de grandes longueurs d'onde. Les grandes longueurs d'onde correspondent à des basses fréquences, les sons graves, typiquement générés par un caisson de basse. Lorsque vous avez des petites longueurs d'onde, vous allez avoir des sons aigus. Et ces sons aigus qui sont représentés ici vont se propager et peuvent même se sommer à des sons graves. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Lorsqu'on émet des sons, on a une superposition de l'ensemble de ces longueurs d'onde.
D'accord. Donc dans l'air, finalement, il y a cette espèce de vaguelette qui va se propager, mais j'imagine qu'elle ne se propage pas forcément dans une direction, elle va partir un petit peu partout.
Donc dans la conversation que nous sommes en train d'avoir, il y a effectivement des vaguelettes qui se propagent, mais qui se propagent en trois dimensions. Sauf que représenter les choses en trois dimensions, ce n'est pas évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà se représenter les choses en deux dimensions. Et pour ça, la meilleure image, c'est je jette un petit caillou dans l'eau. Lorsque je jette un petit caillou dans l'eau, je vais créer une onde, qu'on appelle une onde de surface. Et donc tout le monde a l'image du cercle en fait, qui va se propager.
Qui va voilà. S'élargir comme ça.
Qui va s'élargir et qui va se propager. Le son, c'est exactement la même chose, mais en trois dimensions. Et la généralisation d'un cercle à trois dimensions, c'est une sphère. Donc là, nous sommes en train de discuter, nous générons des sphères.
Ces ondes qui arrivent partout, elles passent, elles nous traversent aussi comme...
Donc là, on a parlé jusqu'à maintenant de sons qui se propagent dans le vide, mais là, quand nous sommes en train de parler, il y a des obstacles. C'est nous-mêmes, en fait, les obstacles. Si on regarde, en fait, sur la vidéo suivante, vous voyez, en fait, une onde qui va se propager, donc en deux dimensions, car c'est plus facile pour représenter les choses. Et au-dessus de cette onde, là, ici, vous avez, de cette source sonore, vous avez un obstacle. Et comme vous pouvez voir, en fait, là, cette onde, on a l'impression qu'elle ne voit pas cet obstacle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport entre la longueur d'onde et la taille de l'obstacle qui est essentiel lorsqu'on parle de propagation d'onde. Tout simplement, lorsque la longueur d'onde est plus grande, bien plus grande que l'obstacle, l'onde ne voit pas l'obstacle. Donc pour ça, un autre parallèle, c'est d'imaginer, je reprends l'image avec le petit caillou, sauf que cette fois j'ai une vague, si j'ai un tout petit caillou et une vague, la vague évidemment ne va pas voir le petit caillou, ne va pas faire le tour du petit caillou. En revanche, si j'ai une île, là à ce moment-là, la vague voit l'île et la vague va faire le tour.
D'accord, donc là, ce qu'on voit, c'est l'onde qui se propage donc, sur la mare ou sur le lac. Et donc, avec un tout petit obstacle, elle passe à travers. Avec un gros obstacle, elle va être déformée ou elle va passer à côté, en tout cas.
Elle devrait, en tout cas, interagir avec. Néanmoins, ce petit obstacle, vous vous en doutez, ce n'est pas n'importe quoi, on parle de son. Donc vu qu'on parle de son, ce petit obstacle, si on regarde, en réalité, c'est une tête. Et vous voyez sur cette tête, vous avez deux oreilles, donc l'oreille droite et l'oreille gauche. Et même si cette onde n'a pas l'air d'interagir énormément avec la tête, néanmoins, on voit que l'onde va arriver plus tôt à l'oreille droite par rapport à l'oreille gauche. Donc finalement, vous allez quand même avoir des différences entre les deux oreilles.
J'imagine que cette différence, elle est assez rapide parce que le son, ça va très vite, c'est 300 mètres par seconde, quelque chose comme ça.
340, tout à fait.
340 mètres par seconde. Mais le cerveau arrive quand même à identifier que le son arrive à droite parce qu'on l'entend d'abord de l'oreille, dans l'oreille droite.
Le cerveau, c'est une belle mécanique et donc il arrive à identifier ce genre de choses. Donc quand vous allez avoir là, dans le cas présent, un son qui va être émis à droite, il va arriver plutôt à l'oreille droite par rapport à l'oreille gauche. Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Un son qui vient de la gauche arrive plutôt à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite. Mais il y a quand même un problème, c'est que si on regarde cette fois un son qui vient de l'avant, on se rend compte que le son qui vient de l'avant va arriver en même temps aux deux oreilles, jusqu'ici tout va bien, mais un son qui vient de l'arrière, eh ben vous rendez compte qu'il arrive aussi en même temps aux deux oreilles. Ce qui fait que là, notre théorie, entre guillemets, va s'écrouler, tout simplement parce que nous avons le même indice de localisation pour un son qui vient de l'avant par rapport à un son qui vient de l'arrière. Et pourtant, nous sommes capables de distinguer les sons qui viennent de devant, les sons qui viennent de l'arrière, les sons qui viennent du dessus.
Même sans, effectivement, parce que même sans regarder, donc sans les autres sens finalement, on arrive quand même à distinguer.
Il manque quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Donc c'est ça que nous allons regarder. Et si vous vous souvenez, lorsqu'on regarde donc cette fois une plus haute fréquence, si vous vous souvenez du parallèle en fait avec la mer, l'île et le petit caillou, là tout ce qu'on a changé dans cette vidéo, c'est qu'on a diminué en fait la longueur d'onde. On a pris une longueur d'onde plus petite, un son plus aigu, une haute fréquence. Et cette fois, comme l'onde est plus petite, elle voit l'obstacle, elle voit la tête et elle interagit avec. Et notamment ce qu'on voit en fait sur cette vidéo, c'est que le pavillon auditif, ici, qui est juste derrière, va arrêter le son. Et en fait, il va faire un masque acoustique et le son ne va moins, en tout cas, arriver au niveau du tympan. Si on regarde là-dessus, on se rend compte qu'on a une certaine image, c'est-à-dire que le son va effectivement s'arrêter au niveau du pavillon, alors qu'un son qui vient de l'avant, cette fois, lui, il va passer, il va atteindre directement le tympan. Ce qui veut dire que pour cette fréquence, en tout cas pour cette longueur d'onde, on a deux choses différentes, on a deux résultats différents pour un son qui vient de l'avant par rapport à un son qui vient de l'arrière.
Si on arrive à discriminer l'avant de l'arrière, c'est grâce aux fréquences aiguës. Donc les sons les plus aigus, c'est eux qui nous disent si c'est avant ou arrière.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce schéma, vous allez l'avoir sur toutes les fréquences, mais ce sont les fréquences les plus aiguës qui vont créer le plus de déformations. Mais chaque fréquence, chaque longueur d'onde va avoir sa propre signature et va déformer le son différemment. Et du coup, vous imaginez derrière que vous pouvez entendre un son devant ou un son derrière grâce à cette superposition de toutes ces fréquences qui modifie les choses différemment. Si on regarde un tout petit peu plus près, donc là, vous avez ici un zoom en fait qui est effectué sur cette tête et vous avez un son qui vient de l'arrière. Comme on disait tout à l'heure, cette fois, le son va être arrêté par le pavillon de l'oreille. Vous voyez qu'au niveau du tympan, il y a très peu d'informations qui arrivent. Ce qu'on représente ici, en fait, c'est la pression acoustique qui va se propager. Et lorsque les couleurs sont intenses et qu'il y a une forte pression, lorsqu'il y a très peu de couleurs, ou lorsque c'est verdâtre, c'est qu'il y a très peu de pression. Donc là, on voit que peu d'informations arrivent au niveau du tympan.
D'accord, donc plus c'est rouge, plus c'est puissant, plus la pression est forte, c'est ça, sur le,
exactement,
sur la peau, voilà, sur le tympan. Et bleu, ça veut dire c'est faible, c'est...
Voilà, quand on est rouge, on est sur le haut de la vague, et quand on est bleu, on est sur le bas de la vague.
C'est le bas de la vague.
Voilà. Du coup, là, vous avez le son qui vient de l'arrière. Maintenant, si on regarde le son qui vient de l'avant, on se rend compte que là, on n'a pas le même résultat. Au niveau du tympan, il y a plus d'informations qui est passée. Ce n'est pas très net, mais on sent bien qu'il y a en tout cas plus de choses. Par contre, si on regarde un son qui vient du dessus, là, vous voyez qu'au niveau du tympan, clairement, le tympan est éclairé par le son. Le tympan entend très bien ce son-là.
D'accord. Donc, le pavillon de l'oreille, finalement, joue un espèce de rôle d'entonnoir qui récupère le son dans une direction et moins dans l'autre.
Et du coup, cet entonnoir va jouer un rôle d'amplification en fonction de la direction du son. Donc typiquement, là, on a des résultats pour cette tête. Maintenant, on comprend bien que ce résultat est fortement lié à la géométrie de ce pavillon. Et du coup, lorsqu'on change de tête, donc je prends une nouvelle tête, bah vous voyez que le résultat est sensiblement différent. Si je reprends la tête d'avant, vous n'avez pas du tout la même signature acoustique au niveau du tympan sur cette tête par rapport à celle-ci. Et du coup, je peux même m'amuser à prendre une troisième tête, et là, j'ai encore un autre résultat.
D'accord, donc selon notre forme d'oreille, on va entendre quelque chose de différent et on va pas avoir la même sensation de dans l'espace, c'est ça?
En fait, l'idée, c'est que chacun a sa forme d'oreille et que chaque forme d'oreille va modifier le son de manière différente. Et votre cerveau apprend en fait à écouter, apprend à entendre en trois dimensions. Et au fur et à mesure enfin, voilà, de la vie, vous apprenez à identifier les sons en fonction de ces déformations. Mais évidemment, ces déformations ne sont pas les mêmes pour vous et pour moi. Pour le même son, nous n'allons pas entendre exactement la même chose. Donc pour résumer tout ça, en fait, on va avoir besoin finalement pour entendre en trois dimensions, on va avoir besoin de trois choses. La première chose, on va avoir besoin d'entendre un son qui va arriver plus tôt et plus fort à une oreille par rapport à une autre. Plus tôt, c'est donc le premier indice, plus fort, c'est le deuxième indice. Et le dernier indice, ce sont ces modifications qu'on appelle des modifications spectrales, parce qu'elles dépendent de la fréquence, les sons graves, les sons aigus, ne sont pas modifiés de la même façon. Et tout ça nous permet en fait de cartographier l'espace. À chaque position dans l'espace est associée une différence d'arrivée, une différence de niveau, une différence fréquentielle.
Donc c'est comme ça que vous arrivez à créer des sources sonores dans l'espace en trois dimensions et les rendre donc de manière numérique, c'est-à-dire les écouter avec un ordinateur, par exemple.
Alors effectivement, donc là, tout ça nous permet de comprendre comment fonctionne le son. Les simulations numériques, les calculs nous permettent de comprendre les choses, donc de comprendre la physique en fait qui est cachée derrière tout ça. Et le but du jeu, ça va être d'utiliser en fait la plupart de ces outils. Juste pour reprendre en fait sur ces trois informations, on a donc des positions qui dépendent des sources dans l'espace, on a des fréquences qui dépendent du signal, et tout ça dépend de la morphologie de l'auditeur, et toutes ces fonctions sont résumées dans ce qu'on appelle la HRTF. C'est une fonction mathématique, et nous, notre travail, c'est d'étudier, de comprendre, puis d'utiliser cette fonction mathématique de manière à faire des applications. Et donc, au niveau des applications, on va avoir beaucoup de choses. Avant ça, je vais quand même vous parler des applications sur la recherche, en tout cas sur nos travaux de recherche. La première chose, ça va être de travailler sur l'individualisation de ces fonctions de transfert, de ces fonctions mathématiques, parce que comme c'est propre à chacun, un de notre travail, c'est aussi d'adapter en fait le son 3D pour chacun, pour tout le monde, que tout le monde ait une expérience qui fonctionne. Un deuxième travail, ça va être de simplifier ces fonctions pour mieux les étudier, mieux les comprendre et du coup mieux les utiliser. Et enfin, d'autres travaux sur lesquels on fait de la recherche, ça va être de prendre en compte l'effet de la salle, de prendre en compte le milieu dans lequel on évolue, parce qu'évidemment, le milieu dans lequel on évolue va interagir directement avec toutes ces fonctions.
Donc le milieu, c'est-à-dire par exemple quand on est dans un parking souterrain, il y a plus de résonance, c'est ça quand...
Voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans un parking, vous n'avez pas le même son que dans vos toilettes ou dans votre
Une
salon ou dans
église.
une église. À chaque fois, le son est différent et tout ça va évidemment jouer sur votre perception du son dans l'espace. Donc à la fin, on va étudier beaucoup de domaines des mathématiques. On va voir du traitement du signal, on va voir de la modélisation. Donc tous les résultats, toutes les vidéos que je vous ai montrées, ce sont des résultats de modélisation. La modélisation, c'est la résolution numérique des équations de la physique. On va avoir du coup des équations qu'on appelle des équations dérivées partielles et on va avoir de la géométrie dans l'espace. À la fin, du coup, donc on a des thématiques de recherche, on a des thématiques sur lesquelles nous travaillons dans notre centre de recherche en mathématiques appliquées, mais il y a quand même le terme appliqué, donc on va utiliser tous ces résultats.
Ouais, donc c'est ça qu'on a envie de savoir, c'est concrètement pour le grand public comme nous, est-ce que cette technologie, enfin comment arrive cette technologie jusqu'à nous?
Alors, cette technologie va arriver par plusieurs secteurs. Là, je vais vous en présenter quatre, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Le premier, le plus naturel, ça va être de travailler avec les ingénieurs du son. Donc, les ingénieurs du son, c'est eux qui font en fait la musique, la télévision, le cinéma, etc., ceux qui travaillent le son. Les ingénieurs du son ont besoin de matériel et ont besoin de studios d'écoute. Via notre compréhension du son en trois dimensions et via les logiciels que nous sommes capables de créer à partir de ça, de calculs, au lieu d'avoir, comme vous voyez sur cette image, une énorme console avec des enceintes et un studio, vous pouvez avoir la même chose, mais uniquement numérique, c'est-à-dire virtuelle, avec un simple casque. Donc ça, c'est très pratique pour les ingénieurs du son, qui n'ont pas besoin d'un gros studio pour travailler, qui ont juste besoin d'un ordinateur avec un casque. Donc c'est une des applications. Une autre des applications, qui n'est pas du tout la même, ça va être de travailler pour l'archéologie. Alors, là, ce que vous avez ici, c'est un théâtre antique, romain. mais c'est le théâtre tel que nous l'avons aujourd'hui, le théâtre antique d'Orange. Comme vous voyez, ce théâtre ne ressemble a priori pas tellement au théâtre de l'époque. Vous avez un toit en métal, il manque la plupart des ornements, beaucoup de... Enfin, ce théâtre a évolué, en fait, en 2000 ans. Et là, un des objectifs, c'est de reconstruire le son de ce théâtre, mais tel qu'il était à l'époque. Et à l'époque des Romains, en fait, ce théâtre ressemblait plutôt à la maquette virtuelle que vous avez ici. Et nous, nous sommes capables de faire des calculs sur cette maquette pour écouter le son tel qu'il était à l'époque.
Recréer l'univers, l'ambiance que les Romains pouvaient entendre il y a quoi, c'est 2000 ans
C'est exactement ça. Et évidemment, on ne peut pas faire des mesures dans quelque chose qui n'existe plus. On peut faire des maquettes, mais reconstruire le théâtre à l'échelle telle qu'il était à l'époque, ce n'est pas quelque chose de pensable, de raisonnable. Donc on va passer par le calcul, on va passer par le virtuel pour redonner en fait, à écouter ce que les Romains entendaient dans le théâtre de l'époque. On va résoudre des équations. Il y a ensuite une autre application sur laquelle on travaille, ça va être le guidage. Vous avez un son qui est dans l'espace, ce son est projeté dans l'espace, donc vous êtes capable de l'entendre, de le localiser, de dire il est devant, sur le côté, avec une certaine précision. Et grâce à ça, en fait, on fait faire du sport à Stéphane. Stéphane, en fait, est un aveugle qui fait du roller. Et aujourd'hui, en fait, il va suivre un guide. Son guide va se placer devant et uniquement en écoutant le bruit des patins de son guide, il va suivre son guide. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'avoir un guide, on va utiliser un casque, lui faire écouter le son en trois dimensions, et lui doit suivre en fait, la source sonore comme si c'était un guide.
D'accord, donc dans son casque, il entend en fait, par exemple des bruits de roller qui sont juste devant lui et qui se déplacent en même temps que lui, et c'est ça qu'il va devoir suivre
Exactement, c'est ça qu'il va devoir suivre, et nous, on contrôle tout ça par des logiciels, par du calcul, encore une fois, par du numérique. Et comme vous voyez sur cette image, vous avez en fait le parcours que Stéphane a effectué. Ce parcours a été préenregistré et vous voyez que sa position globalement montre qu'il est capable de suivre ce parcours jusqu'à 12 km/h. Bon, l'objectif évidemment, c'est d'aller plus vite et puis pourquoi pas de l'emmener au JO en 2024 après tout.
Non mais complètement autonome, c'est-à-dire qu'il pourra se déplacer et faire tout le circuit sans aucune aide.
En autonomie complète.
Juste avec un... Exactement. Un logiciel et un casque.
Avec un logiciel, avec des calculs, et il est capable aujourd'hui déjà de se déplacer en toute autonomie. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Évidemment, quand on parle de son 3D, on peut penser en tout cas aux jeux vidéo. Il y a énormément d'applications. On imagine bien qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la réalité virtuelle, le son 3D, c'est un peu la réalité virtuelle pour les oreilles. Si on est capable de coupler l'image au son, tout ça en trois dimensions, on va avoir des jeux vidéo qui devront en tout cas donner une expérience immersive jusque-là inégalée.
Avec une vraie notion d'espace
Avec une vraie notion d'espace dynamique, capable de... vous allez pouvoir vous immerger dans un univers entièrement virtuel.
D'accord, merci Mathieu. Donc pour résumer finalement, les simulations numériques qu'on va pouvoir faire autour de cette thématique de son en trois dimensions, ça va utiliser beaucoup les maths et cette fameuse fonction HRTF pour recréer virtuellement un environnement tridimensionnel et écouter des sources sonores dans l'espace.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire des mathématiques, mais de faire des mathématiques appliquées. Pour ça, on va utiliser un vecteur qui est le calcul numérique. Grâce au calcul, en fait, on est capable de faire des études plutôt fondamentales, de compréhension profonde, en fait, des phénomènes. Mais les résultats de ces calculs, après, peuvent être utilisés et appliqués à de nombreux sujets, comme le guidage audio, comme la réalité virtuelle, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de faire des mathématiques appliquées.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu, et on suivra les activités de X-Audio, du Centre de mathématiques appliquées de l'École Polytechnique dans ce cas.
Merci beaucoup Robin.